Le député à la retraite d'Abitibi-Ouest, François Gendron, est allé faire son petit tour à l'Assemblée nationale pour faire part de ses préoccupations, notamment en ce qui a trait aux agriculteurs de la région. Là, en bout de ligne, M. Gendron, bonjour.
Bonjour.
M. Gendron, quel message avez-vous porté à Québec?
Le même que j'avais porté à RLC Média, aux nouvelles régionales, en disant que, comme le ministre avait eu la gentillesse de venir voir ce qui se passait, il a appelé le président du conseil d'administration, le DG de la financière, il a dit « J'aimerais ça que tu viennes voir ce qui se passe ». Il a rencontré des producteurs agricoles, puis leur a dit « On va vous compenser adéquatement. On recommencera pas l'opération d'analyser. » Ça faisait deux fois qu'il analysait. Alors, moi, je t'allais dire, ben là, écoutez, on veut pas de rencontres, puis de conférences, puis de ci, puis de ça. On veut que vous posiez un geste d'accompagnement des concernés qui sont tannés d'attendre, parce qu'ils ont besoin de liquidité. Il y a trop de producteurs qui vendaient une partie de leur cheptel, parce qu'il n'y avait pas la liquidité pour acheter du foin qui n'est pas achetable quand il arrive une affaire de main. Donc, comment tu diras, ben, t'as juste à acheter des balles ailleurs, il va payer une fortune. Donc, c'est pas ce qu'il voulait. À quelque chose d'exceptionnel, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision exceptionnelle. Alors, moi, j'ai eu le ministère de presque deux ans, là, alors je sais que la financière avait la capacité, puis les fédéraux, ils avaient la capacité de poser un geste ad hoc, qu'on appelle. Pas un nouveau programme, pas changer toutes les règles qui existent, uniquement compenser adéquatement des pertes de 80% plutôt que s'arrêter à 30, 25, 50.
Est-ce que la situation actuelle, ça met beaucoup, là, je pense, vous connaissez la région, vous êtes venu faire votre tour régulièrement au Témiscamingue. Pour nos producteurs ici, j'imagine que c'est les mêmes préoccupations qu'ailleurs?
Non, ça c'est clair. À un moment donné, là, puis là, c'est pas parce que je les aime pas puis que vous aime pas autant que le reste. C'est que la deuxième coupe de foin la plus massacrée qui a pas eu lieu en termes de rendement, c'est Dupuis, La Reine, Macamec, Saint-Germain, ainsi de suite. Est-ce que le Témiscamingue était aussi désavantagé par les inconvénients climatiques? La réponse, non, en termes des rapports. Je ne crois pas que vous avez eu cinq semaines, pas une goutte d'eau, entre le début de juin et les trois quarts du mois de juillet. Ici, on a vécu ça.
Maintenant, la situation est quand même pas facile pour nos agriculteurs ici, là, l'année qui s'en vient. Les pertes sont peut-être moins fortes que dans votre coin, mais quand même.
Ah non, mais ça, vous avez complètement raison. Mais là, regardez, là, à un moment donné, quand on discute un dossier, je reste sur le dossier. Donc, moi, quand j'ai fait l'intervention, c'était ce que j'appelle les producteurs et les productrices qui m'ont demandé, « Monsieur Gendron, tu peux-tu nous aider et mettre de la pression pour que le gouvernement se branche et qu'il arrête de venir jaser? » Alors, ben, j'ai pas eu une telle demande des producteurs des Témiscamingue, et ça veut pas dire que je l'aurais pas fait si les dommages auraient été aussi importants que ceux que j'ai constatés avec mes producteurs et productrices qui sont mis à vendre leur cheptel. Alors, la réalité que le secteur ouest a connue, il est le seul à avoir connu une réalité aussi négative par rapport aux coûts.
Maintenant, aujourd'hui, on est le 21 mars, c'est la journée internationale de la forêt. Ça fait partie des ministères que vous avez occupés, ça. On en est rendu où par rapport à ce domaine-là? C'est l'économie, l'écologie, la récréation et tout, là.
Bien, on est à la même place, mais avec une adaptation très importante. D'abord, il y a beaucoup plus de couverts forestiers que tu peux pas l'acquérir parce qu'ils ont abandonné ce qu'on appelle les concessions forestières ou l'attribution de mètres cubes de bio à maturité ou de billes à maturité. Et ça l'a changé. Là. Il y a 40% à peu près là, du couvert forestier qui s'est pas touché. Parce que c'est une forêt surannée, c'est une forêt d'enseignement de recherche, c'est une forêt de toutes sortes d'autres choses qui est conservée parce que faut toujours garder un bon pourcentage de forêt qui n'est pas exploité parce que c'est le poumon de la terre pour ce qu'on appelle le système écologique du milieu, la faune, les caribous, mettez toutes sortes d'affaires, là. Il y a 20 éléments qui avaient, il y a 25, 30 ans, 40 ans, on n'avait pas ce problème-là d'attribuer ce qu'on appelle de la bouffe forestière beaucoup plus large. Là, c'est beaucoup plus réduit et c'est correct comme ça avec ce qu'on appelle l'obligation du climatique qui cause des problèmes, les maladies, la forêt à maturité, il y en a moins, elle est plus petite. parfois est noyé, parfois le passer de soleil, faudrait faire plus d'éclaircies commerciales. Pour faire plus d'éclaircies commerciales, c'est coûteux, ça prend du monde pour le faire. Donc, tout ça a changé, parce que je veux répondre honnêtement, mais c'est sûr qu'il reste encore la forêt de qualité à maturité, et quand tu as de la forêt de qualité à maturité, tu peux pas faire autre chose que deux affaires. L'accueillir pour l'exploiter commercialement parlant, ou si tu l'accueilles pas, elle va tomber malade. Tomber malade dans le sens que les bébites vont manger, il va y avoir des chablis, vous connaissez sûrement ces termes-là, le vent va l'attaquer plus facilement, et les feux de forêt, là, va falloir revoir toute la question de ce qui entoure la forêt qu'on appelle SEPM, sapin, épinette, mélèze et autres. Dans le feuillu, là, on peut pas ne pas... Excuse-moi. Dans les conifères, on peut pas avoir que du conifère. Il faut avoir du feuillu pour réduire énormément la tentation de une destruction par des orages, par la foudre, par l'exploitation. Là, à un moment donné, quand tu fais chaud, comme on a vécu, tu peux très bien mettre le feu en forêt uniquement avec le chargeur qui charge les billes, mais que sa plaque en dessous frotte sur l'humus, il est très, 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 très sec, et ça met le feu.
Donc, il faudrait encore être prudent cette année avec les incendies forestiers. On a été chanceux l'an dernier au Témiscamingue, mais on n'est pas à l'abri de rien. Là.
Ah non, on n'est pas à l'abri de rien. Puis, écoutez, on peut pas être à l'abri si on comprend pas qu'on a tellement d'indications que le climatique est complètement viré à l'envers, avec des folies de pluie torrentielle à certains endroits, avec des chaleurs excessives, et ainsi de suite. Et c'est, qu'est-ce que tu veux, là? Cet été, on a eu l'été, je parle pour le Québec, là, je connais pas le reste du Canada, là, l'été la plus chaude des 35 dernières années. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Alors, il y a des inconvénients à ça. Il y a énormément d'inconvénients avec ça. Fait qu'il faut que tu fasses attention à l'exploitation. Gardons juste l'exemple de Normétal. À partir du moment où il y a des vents qui poussaient vers le village et que tu sais qu'il n'y a pas de zone de production, de protection, pardon. Et ben ça veut dire que là, il va falloir, ils l'ont fait. Ils ont créé ce qu'on appelle un entourement, on va employer cette expression-là, où ils ont coupé de la forêt qui n'avait pas de besoin, mais qui devenait ce qu'on appelle un protecteur, un aire découverte pour éviter que le vent pousse tout de suite le feu plus proche. Alors, on appelle ça dégager un aire complètement pour avoir des aires de protection. Et ils l'ont fait à Barraude, ils l'ont fait à Salterre, ils l'ont fait un peu partout. Et ils vont continuer à en faire. Parce que les détenteurs de parterre de coupe, ça n'existe plus, les concessions forestières, les CAF qu'on appelait. Là, le gouvernement est 100% gestionnaire de sa forêt publique et il va augmenter les effectifs à la Somme-Feu. Et eux vont faire ce qu'on appelle une préparation plus protectrice contre les feux de forêt.
En terminant, M. Gendron, je vous amène dans le domaine politique. Ça va bien dans les sondages pour le Parti québécois?
Ben, ça va très bien. Ben oui, ça, j'espère que ça va continuer d'aller bien, parce qu'on a un chef extraordinaire, puis on a un chef qui respecte les autres partis politiques et qui assume nos convictions. Moi, j'aime mieux les gens qui ont des convictions puis qui restent avec leurs convictions que les gens qui ont juste l'ambition. Alors, nous, Paul Saint-Pierre Plamondon est attractif pour la population, parce que la population, il dit, il a l'air sincère, il est crédible, il fait de la politique moderne, et non pas de la politique bête, de toujours dénoncer, puis les autres sont pas bons, puis nous autres, on l'a. Il assume nos convictions, et quand un chef de parti assume ses convictions, à un moment donné, le public se rend compte que ce qu'il met sur la table, c'est analysé, c'est documenté, et c'est sérieux. C'est ce que Paul Saint-Pierre Plamondon fait présentement. Et même... quand un chef est de plus en plus attractif, ben, le monde dit, on va laisser faire les préjugés, on va analyser son programme électoral et ce qu'il met sur la table. C'est un type qui ne met pas sur la table ou sur la politique des choses qu'il n'a pas validées, puis qu'il n'a pas fouillées, puis qu'il n'a pas l'assurance d'une crédibilité.
Merci, Gendron. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes. C'est toujours agréable de jaser avec vous.
Ben moi, ça, j'aime ça jaser avec les gens. J'ai toujours voulu donner leur juste et c'est ce que je continue à faire quand je peux.
À une prochaine fois.
Bye-bye.